les conférences de la grenouille. À écouter sur le 88.8. Chaque samedi à 10h. Le 17 décembre dernier, au Théâtre du Merlan, sur une invitation de Planète Émergence dans le cadre du festival Marseille retrouve le Nord, et en collaboration avec Ars Industrialis, Bernard Stiegler intervenait au Théâtre du Merlan pour une conférence intitulée « La désintégration ». Philosophe, Bernard Stiegler axe sa réflexion sur les enjeux des mutations actuelles, sociales, politiques, économiques, psychologiques, portées par le développement technologique et notamment numérique. En 1987, il conçoit l'exposition « Mémoire du futur » au Centre Georges Pompidou. À partir de 1988, il enseigne à l'Université de technologie de Compiègne et y devient directeur d'une unité de recherche qu'il fonde en 1993, « Connaissances, organisation et systèmes techniques ». Docteur de l'École des hautes études en sciences sociales en 1992, il devient directeur général adjoint de l'Institut national de l'audiovisuel en 1996, puis directeur de l'Institut de recherche et de coordination acoustique-musique en 2001. Il fonde l'Institut de recherche et d'innovation au Centre Pompidou en 2006 et est professeur à l'Université de Londres depuis 2008. Il est également président d'Ars Industrialis, association internationale pour une politique industrielle des technologies de l'esprit, créée en 2005, ayant pour objet l'étude et la réflexion transdisciplinaire sur le nouveau monde industriel qui émerge avec le numérique. Association citoyenne, intervenant dans le débat public, elle s'efforce de formuler des propositions et parfois de les mettre en œuvre par des expérimentations et des actions. Bernard Stiegler est l'auteur d'une trentaine d'ouvrages. La désintégration, une conférence de Bernard Stiegler. Nous entrons dans l'âge des sociétés automatiques, basées en particulier sur le développement des réseaux sociaux et de ce que l'on appelle à présent les big data. Les techniques de profilage utilisateur, mises en œuvre par exemple par Amazon, se combine avec les effets de réseau qu'exploite le social energy ring, avec l'interactivité qui fait que les moteurs de recherche de plus en plus souvent nous prennent de vitesse et nous mènent là où nous ne voulions pas aller. Et avec le calcul intensif sur les données massives qui instille en temps-lumière des phénomènes mimétiques à l'échelle planétaire tout en prétendant prédire tous les comportements par les statistiques probabilistes et se substituer à la décision consciente et délibérée, publique aussi bien que privée. Cette conférence, qui décrira cet état de fait, a pour but de donner une autre perspective sur les réseaux, capable de constituer un nouvel état de droit à l'époque de l'écriture numérique réticulaire et de l'automatisation généralisée, qui sera aussi l'époque de la fin de l'emploi. Bernard Stiegler.
J'ai donné pour titre à cette intervention de ce soir la désintégration. Parce qu'on nous parle beaucoup de la difficulté d'intégration, par exemple des populations immigrées. Le président de la République, d'ailleurs, a inauguré un musée de l'immigration, comme vous l'avez entendu dire. Ce que je voudrais dire, moi, c'est que la désintégration frappe tout le monde. Peut-être un peu plus les immigrés que les autres, parce qu'ils sont plus fragiles encore. Enfin, certains, parce qu'il y en a qui sont beaucoup plus forts aussi. Ils ont pris l'habitude de devoir se battre beaucoup, et donc ils sont parfois des ressources impressionnantes. Mais quoi qu'il en soit, le sujet n'est pas du tout l'immigration, là, ici, c'est l'intégration. L'intégration, qui est une question qui s'est posée d'une manière explicite, brutale aussi d'ailleurs, même violente parfois, avec la révolution industrielle. Parce que la révolution industrielle, qui a commencé il y a 250 ans, un peu moins, a bouleversé les systèmes sociaux, les organisations sociales, l'Église, les pouvoirs divers et variés, les structures régionales, territoriales, etc. Par exemple, avec le développement des routes et surtout des voies ferrées, des processus de migration, de marchandises, de personnes, hein, qui ont fait apparaître que finalement les changements qui se produisaient à travers ce que Bertrand Gille, l'historien, appelait le système technique, qui se mettaient en place à cette époque-là comme système technique industriel se produisaient toujours plus vite que les changements des systèmes sociaux, et que du coup les systèmes sociaux étaient toujours en retard sur les changements techniques, et que ça posait des problèmes de désintégration. J'ai choisi de vous montrer cette image qui mériterait 1000 commentaires, qui nous représente une photo, enfin qui est une photographie d'une classe de l'école de Blida en Algérie, une école qui s'appelle l'école Jules Ferry, 1956. Blida, c'est Jules Ferry ça, hein, c'est l'école de Jules Ferry, c'est une école colonialiste avec tous les défauts qu'elle a, mais aussi une ambition qu'elle a, pas simplement à Blida mais sur le territoire de, comme on disait autrefois, la métropole, par exemple en Bretagne ou en Corse, de faire que ces pays, ces systèmes, ces territoires si différents arrivent à s'intégrer. Dans quoi ? Dans une institution intégrative qui repose sur le partage du savoir scientifique, c'est-à-dire une idéalité du savoir, l'histoire, avec tout ce qu'elle peut avoir de, évidemment, plus ou moins discutable. L'histoire de France, quand on regarde un manuel de l'histoire de France, c'est toujours un poème politique, hein, de voir comment cette histoire est une vision de l'histoire, évidemment, elle ne pourra jamais être autre chose, d'ailleurs. La géographie, la littérature nationale, tout cela, ça repose sur une institution sans laquelle il ne pourrait pas y avoir d'intégration, et que Jules Ferry arrive en 1880 pour la mettre en œuvre, c'est... Au bout d'un siècle d'industrialisation, c'est devenu indispensable et l'Église ne joue plus du tout son rôle dans ce processus d'intégration. Cela étant, l'école, elle remonte à bien avant Jules Ferry, hein, elle remonte à la Grèce. Elle est le cœur, c'est l'institution fondamentale de la politeia, c'est-à-dire de l'intégration des citoyens à l'intérieur de cette communauté qu'on appelle la politeia, qui est une forme, comme dit Gilbert Simonon, que j'affectionne beaucoup, d'individuation collective, c'est-à-dire de devenir ensemble, et qui repose, ce devenir ensemble, sur le partage d'un rapport à la géométrie. On parle toujours du skoleion, c'est-à-dire de l'école grecque antique, comme d'un lieu où on étudie Homère, et c'est tout à fait vrai. Si vous lisez les dialogues de Platon, il parle toujours de l'étude d'Homère, mais on étudie aussi, et fondamentalement, Thalès et les géomètres. C'est-à-dire qu'on apprend à faire une expérience de la prise de décision qui repose sur ce que les Grecs appellent l'aletheia, c'est-à-dire le partage de l'expérience à la vérité, et la soumission à la nécessité absolue d'argumenter logiquement pour prendre des décisions dans cette institution-là. Ça, c'est un bouleterion grec. Le bouleterion, chez les Grecs, c'était l'équivalent de ce qu'est chez nous l'Assemblée nationale. Pour que une assemblée comme le bouleterion chez les Grecs ou l'Assemblée nationale en France prenne des décisions, il faut des critères de décision. Et l'institution qui rend ces critériologies partageables par les citoyens, c'est l'école. Ce qui apparaît avec la Grèce ancienne, il y a longtemps maintenant, hein, plus de 2500 ans, c'est quelque chose qui rompt avec les arguments d'autorité, qui étaient par exemple ceux qui régnaient dans l'empire des pharaons, ou dans la société du prêtre-roi, ou encore dans la société magique. En disant ça, d'ailleurs, je ne suis pas du tout en train de dévaloriser ces sociétés. Ce sont d'autres formes de sociétés, ce ne sont pas les nôtres. Mais il y avait là aussi des prises de décision, mais elles étaient plus liées à la divination, par exemple, chez les Égyptiens ou chez les Mésopotamiens. C'était les processus divinatoires qui permettaient la prise de décision. Dans notre société, la société occidentale qui est apparue en Grèce, qui a rejoint la Judée à travers le christianisme et qui ensuite s'est... à travers la dure histoire de la colonisation, c'est planétarisé, y compris c'est exporté jusqu'en Chine, qui n'a jamais été colonisée à proprement parler, mais qui a quand même, via le marxisme notamment, repris ses idéaux de le modèle occidental. Dans ces sociétés-là, la constitution de l'individu repose sur la formation de l'attention. Et ce qui se produit à l'école, c'est un processus d'intégration de l'individu par sa capacité à devenir attentif à ce que c'est qu'un théorème de géométrie, un poème de Baudelaire, l'histoire de son pays, y compris si c'est pas son pays, c'est pas le mien la France, hein, c'est pas mon pays la France, je m'appelle Stiegler, moi vous imaginez bien que c'est pas très français. Mon grand-père était allemand, mes ancêtres ont combattu la Révolution française, probablement, enfin en tout cas peut-être pas, vous êtes des paysans allemands, mais ils n'étaient pas du côté des sans-culottes. Mais pour moi, mes ancêtres, ce sont les sans-culottes, bien entendu. Parce que je me suis intégré à la République française, comme mon grand-père d'ailleurs, qui interdisait qu'on parle allemand chez nous, et etc., etc. Je veux dire par là que, et on y reviendra dans un instant, toute société procède par un processus d'intégration de gens qui sont hétérogènes. Et cette intégration de gens hétérogènes, elle suppose des institutions intégratives qui peuvent être l'école, qui peuvent être, on le verra tout à l'heure, l'église, ou toutes sortes d'autres institutions d'ailleurs. Hein, parce que toutes les sociétés sont confrontées à ça. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation nouvelle qui s'appelle le consumérisme. Et dans laquelle, ces petits enfants que vous voyez tout à l'heure, attentifs à écrire avec son encrier dans l'école de la Troisième République, est maintenant face à un écran qui lui explose un peu la tête. Hein, qui lui explose un peu la tête et qui détruit l'attention. Je ne vais pas développer ce point de vue de la destruction de l'attention en détail, je l'ai fait souvent dans toutes sortes d'occasions, et puis beaucoup de gens le font aujourd'hui. Mais la captation industrielle de l'attention par le consumérisme conduit à l'hyperattention, c'est-à-dire en fait à la perte d'attention et à toutes sortes de problèmes pathologiques qui deviennent tellement graves qu'il devient très difficile d'éduquer ses enfants pour les parents, très difficile d'enseigner pour les profs, etc., etc. Il s'est passé au cours du dernier siècle un processus très stupéfiant qui est que le fait que toute société repose sur ce que j'appelle un processus d'individuation de référence. Ce que j'appelle l'individuation, je vous le répète, c'est le fait de devenir. Bon, je m'individue psychiquement, ça veut dire que je deviens qui je suis. En vous parlant, là, je deviens qui je suis. C'est-à-dire que je m'accomplis, enfin j'essaye en tout cas, et j'essaye de faire en sorte que vous accomplissiez avec moi en m'écoutant et tout à l'heure en prenant la parole. C'est-à-dire j'essaye en m'individuant de faire que nous nous individuions ensemble. Que Gilbert Simondon appelle de l'individuation collective. Ça peut se faire à toutes sortes de niveaux. Par exemple, dans ce groupe-là, le Théâtre du Merlan, dans l'association Ars Industrialis, dans Planète Émergente, sur le territoire de Pleine Commune. Tout ça, ce sont des processus d'individuation qui peuvent être en concurrence les uns avec les autres. Aix et Marseille peuvent avoir des petits problèmes d'individuation collective. Et on peut se dire, mais il faudrait qu'ils s'individuent ensemble dans une métropole, par exemple. Mais c'est pas toujours simple. Pour que ça fonctionne, par exemple, pour arriver à faire que les Alsaciens, les Bourguignons, les Picards et les Bretons arrivent à se co-individuer dans un truc qu'on appelle, avec Jules Ferry, la France, il faut un processus d'individuation de référence qui dépasse les particularismes. Il y a des sociétés qui ont dominé l'histoire humaine pendant des centaines de milliers d'années, qui ont d'abord baser ces processus d'individuation de référence, c'est-à-dire qui dépassent les particularismes, sur le totémisme. Ce sont les sociétés magiques. Alors le totémisme, ou d'autres formes que le totémisme, disons, ces sociétés qui étudient l'anthropologie, l'ethnologie à la fin du XIXe siècle, et que Émile Durkheim appelle totémique, qu'on appelle aujourd'hui les peuples premiers. Si on avance dans le temps, après, par exemple, le devenir impérial de la Grèce, et puis la transformation profonde des rapports entre le judaïsme et le christianisme qui va aboutir à Rome, dans le Saint-Empire romain-germanique, par exemple, ce qui fait l'unité de l'Empire, ce n'est pas les Germains, c'est Rome, c'est-à-dire que c'est la religion. La religion dépasse les particularismes. Puis il y a des processus qui vont d'unification des particularismes qui vont devenir non plus religieux mais nationaux. Et puis un autre courant va se développer, ça s'appelle le socialisme au XIXe siècle, qui va devenir internationaliste et qui va dire c'est les prolétaires qui doivent s'unir dans tous les pays. Ce sont les classes sociales et les rapports au travail et au capital qui vont constituer les processus d'universalisation. On pourrait continuer à parler de ça pendant des heures et des heures. Et c'est d'ailleurs passionnant. C'est fascinant même. Mais on n'a pas le temps. Ce que je voudrais vous dire, c'est que sans la projection d'un avenir commun, une société ne peut pas exister. Elle explose. Elle s'atomise et elle entre en conflit avec elle-même et elle peut se désintégrer. Aujourd'hui, notre société se désintègre. Mais si elle se désintègre, c'est parce que les processus d'individuation de référence que je viens de vous présentés ont été détruits par le marketing, qui s'est totalement substitué à ces processus qui ont conduit, par exemple, parfois par des voies extrêmement problématiques, comme ici, le premier grand film de l'histoire du cinéma, The Birth of a Nation, qui est un film raciste,
qui pose l'intégration par le Ku Klux Klan, etc. Donc ce sont des processus qui sont, à vrai dire, toujours assez problématiques, mais qui, sans lesquels aucune société ne se constitue jamais. C'est ce qu'explique André Leroy-Gourhan dans ce livre, Milieu et technique, dans lequel il explique par exemple que la Chine, l'empire de la Chine, qui est le plus vieil empire, qui existe toujours, hein, ça fait 4000 ans qu'il existe, impressionnant, eh bien cet empire, il a su intégrer des centaines et des centaines de tribus, de petits peuples, etc., à l'intérieur, comme dit André Leroy-Gourhan, il le montre, d'une représentation commune de l'avenir. Et ce que dit Leroy-Gourhan, il dit, c'est pas le fait d'avoir partagé un passé commun qui fait l'unité de la Chine. En fait, tous ces gens n'ont pas de passé commun. C'est le fait de partager une vision commune de l'avenir, quitte à construire un passé un peu artificiel, bien entendu, hein, comme l'histoire de France, comme le cinéma américain que je vous ai présenté tout à l'heure, etc. Ce que je vous dis là, en m'appuyant sur l'ethnologie, c'est aussi ce que disent Étienne Balibar et Emmanuel Wallerstein dans ce texte « Race, nation, classe », où il montre qu'en fait, toute société suppose ce qu'ils appellent une ethnicité fictive. Je ne suis pas, objectivement parlant, d'origine française. C'est évident. Sarkozy non plus. Hollande peut-être. Mais il n'empêche que ça n'a aucune importance, parce que ce qui est important, c'est la capacité que j'ai eue à intérioriser l'avenir de la communauté dans laquelle je vis, qui s'appelle la France. De nos jours, cette façon de produire de l'avenir est foncièrement menacé. Par ailleurs, de nos jours, l'avenir est mondial, chacun le sait. Nous n'avons plus la possibilité de nous extraire du destin planétaire. C'est ce que Marcel Mauss, l'auteur de ce livre, appelait la question de l'internation. Non pas de l'international, mais le fait que aujourd'hui la Terre entière est devenue une internation. Non pas un espace international avec des nations. Une internation à l'intérieur de laquelle il y a évidemment des nations. Mauss disait, en 1920, l'avenir passera par la possibilité de construire cette internation. Ou bien il sera remplacé par ça. Et ça, c'est les marques qui dominent, qui sont devenues le processus d'individuation de référence et qui détruisent, en fait, les processus d'individuation psychique et collective à travers une domination absolument illimitée des groupes transnationaux et qui ont installé à l'échelle planétaire, surtout depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, un modèle addictif, ce qu'on appelle le consumer capitalism, qui est devenu addictif effectivement depuis une dizaine d'années. Moi, j'ai commencé à travailler sur ces questions en 2004, après avoir lu un article du journal Le Monde qui faisait état d'une étude menée par un cabinet américain IRI, cabinet de marketing, qui avait été sollicité par la grande distribution française, qui ne comprenait pas des baisses de consommation ou des comportements étranges de consommateurs. Et ce cabinet, qui est le plus grand cabinet de marketing américain, enfin il l'était en tout cas à cette époque-là, avait dit, mais en fait, les consommateurs ont un malaise. Il y a un malaise dans la consommation. Il les avait appelés des alter-consommateurs, c'est-à-dire des gens qui consomment, mais par dépendance et non plus par plaisir. Non plus par choix, mais par obligation, parce que leur vie a été totalement détruite, désintégrée par la consommation. Et c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui pullulent des films comme celui-là, par exemple, que je vous invite à regarder, Consommateurs pris au piège. J'en ai vu des centaines. Le malaise dans la consommation, qui est planétaire, parce qu'on nous dit toujours que c'est les Français qui sont des râleurs, pas du tout. Il y a une enquête qui a été faite aux États-Unis par Juliette Score qui a montré que 80% des Américains condamnent le modèle consumériste américain. Ils disent que c'est un modèle qui envoie l'Amérique et le monde dans le mur. Donc on nous dit toujours que les Américains sont des ultra-consuméristes, c'est archi-faux. Ça, c'est ce que vous disent les gouvernants américains, les lobbyistes américains. Ce n'est pas du tout ce qui se passe dans la réalité. Dans ce processus de grand malaise qui a été produit par la désintégration consumériste et marketing, du marketing, le grand problème qui se produit, c'est ce que j'appelle la désidentification. Nous avons du mal à nous identifier au gouvernement français aujourd'hui. Nos enfants ont du mal à s'identifier à nous. Beaucoup de mal. Ils ne croient pas dans ce que nous sommes. Et nous-mêmes ne croyons pas en ce que nous sommes. Nous doutons fondamentalement de où nous allons parce que nous avons détruit ce que Freud appelait l'identification primaire et l'identification secondaire. L'identification, c'est ce qui fait que quand vous élevez un enfant, un petit enfant jusqu'à l'âge de 5 ans, il croit absolument dur comme fer à tout ce que vous lui dites, il vous croit omnipotent et il s'identifie à vous de manière aveugle. S'il va bien. S'il va bien, il s'identifie à son père et à sa mère, de manière aveugle. Ensuite, à partir de 6-7 ans, il commence à se désidentifier de ses parents, il sort de l'identification primaire, il entre dans l'identification secondaire. Il commence à rencontrer des copains, il sort du cercle strictement de la fratrie, et puis vers 12-13 ans, il entre dans l'adolescence et il commence à rentrer en conflit avec ses parents. Et là, il entre vraiment dans l'identification secondaire. Et il faut qu'il puisse se séparer de ses parents, ça vous le savez très bien, mais ce que dit Freud, c'est que quand il est confronté tout à coup à de très très gros problèmes, c'est l'identification primaire qui revient. Mon père disait que, ça c'est Sacha Guitry, mon père disait que, c'est quand je ne sais plus comment décider, je me réfère à l'identification primaire. Alors mon père, je peux l'appeler Jésus-Christ, je peux l'appeler Allah, parce qu'en fait ce sont des figures du père, tout ça, bien entendu. Hein. Freud a écrit des textes fondamentaux là-dessus, et Christian Metz a écrit aussi un texte sur le cinéma comme pouvoir d'identification. Lorsque Hollywood s'est emparé du cinéma, Hollywood s'est emparé de la capacité qu'a le cinéma de capter l'identification secondaire et de la détourner de ces objets spontanés vers les héros de cinéma, les comportements des héros de cinéma. Par exemple, la cigarette d'Humphrey Bogart, ou le cigare de Freud d'ailleurs, c'est-à-dire tout ce qui va permettre de faire consommer finalement dans le cinéma par ce qu'on appelle le branding, le placement de produits, etc., un certain nombre de productions, et surtout de faire adopter un autre mode de vie qui va être, par exemple, c'est pour ça que les États-Unis ont fait Hollywood, le mode de vie américain. Qui, à partir du moment où on commence à s'y identifier, on se désidentifie un peu du mode de vie européen, bien évidemment. Quand je vous dis ça, ce n'est pas du tout contre les États-Unis. J'admire beaucoup la puissance que les États-Unis ont développée pour devenir un lieu d'identification. Mais je pense que c'est devenu un très très gros problème. Aujourd'hui, par exemple, on dit que les adolescents sont très gravement perturbés dans leur processus d'identification primaire puis secondaire et connaissent des phénomènes pathologiques, psychiques graves. Alors, il y a un film qui en a beaucoup parlé, hein, c'est Elephant, ça peut aller extrêmement loin, ces malaises. Il y a un truc que vous observez tous si vous êtes parents ou profs ou éducateurs, comme disait Sarkozy, c'est le mutisme adolescent. Ils ne parlent plus beaucoup, les adolescents. Moi, je me souviens, quand j'étais adolescent, les adolescents ne pouvaient pas les empêcher de parler, ils étaient casse-pieds, ils prenaient la parole tout le temps. Ils n'apprennent plus la parole, ils ne croient plus à la parole, parfois. On a l'impression de ça, en tout cas. Et en tout cas, ils ont un problème d'identification, c'est-à-dire qu'ils ont un problème de rapport à l'avenir. Ils ont l'impression que l'avenir est à présent bouché. Et ça, c'est pas d'aujourd'hui que ça date. No Future, c'est 1977. Ce malaise, qui a déjà donc 40 ans, 1977, c'est 2 ans avant Margaret Thatcher, hein, c'est ce qui est en train de se produire avec la désindustrialisation de l'Angleterre, un grand doute sur ce qu'a été l'Empire britannique, qui était le plus grand empire du monde, hein, et qui est en train de s'effondrer. Ce malaise, eh bien, il va s'aggraver dans les mois et les années qui viennent. Il va s'aggraver parce que nous entrons maintenant dans la robotisation généralisée. Et donc, le fait qu'on avait l'impression que l'avenir n'était plus du tout évident, et ça date déjà d'une bonne vingtaine d'années, ce malaise de la consommation, va terriblement se compliquer encore et s'aggraver du fait que, comme le disait ce journal, qui est un journal belge, 50% de nos emplois pourraient disparaître à échéance de 10 ans, c'était pour la Belgique, et le JDD disait, c'est Patrick Brazek qui m'avait signalé l'article, il y a 2-3 mois maintenant, ou 2 mois, oui, 3 millions d'emplois pourraient disparaître dans les 10 ans qui viennent, selon, en 2025, selon le cabinet Roland Berger, qui a été missionné par le JDD. Moi-même, j'ai travaillé sur des dizaines d'études dans le monde entier, qui vont jusqu'à dire que dans 20 ans, il n'y aura quasiment plus d'emplois. Ça concrétise un discours que tenait Karl Marx dans ce texte, les manuscrits dits Grundrisse de Karl Marx, qui ont été publiés par les éditions sociales qui s'appellent maintenant Les Essentiels, dans la collection qui s'appelle Les Essentiels, et où Karl Marx, en 1857, c'est un Marx que vous ne connaissez pas beaucoup, parce qu'il a été presque censuré par les marxistes, en tout cas par les marxistes français. Marx dit dans ce fragment, il imagine, il se dit, mais si cette logique du capital qui s'empare de la technologie se développe pleinement, il y aura un moment où tout le savoir passera dans les machines et tout s'automatisera. Il n'y aura donc plus de travail. Ça sera donc plus sur la base du travail, en tant que travail salarié, que pourra se développer la société, ça sera sur de nouvelles bases. Et il dit, à ce moment-là, il faudra inventer une autre société. Cette autre société, c'est une société qui ne reposera plus non plus sur la valeur d'échange et la valeur d'usage, mais sur une nouvelle conception de la valeur. C'est pour vous parler de ça que je suis venu ici. Et pour vous parler de ce que je crois être un phénomène de désintégration qui s'est produit depuis deux siècles d'industrialisation, mais d'une possibilité de réintégration qui s'ouvre, par exemple, avec le modèle des intermittents du spectacle. Je pense qu'aujourd'hui, un grand défi se présente à nous, les êtres humains qui vivons sur la Terre en 2014, et dont on nous dit que si on ne réagit pas dans les 10 ans qui viennent, les 50 prochaines années seront un enfer. La question qui se pose, c'est de faire que l'état actuel de la technologie qui produit une automatisation qui détruit l'emploi devienne une chance et non pas un handicap. Et cette chance, ça fait 10 ans que je soutiens avec Ars Industrialis, qu'elle passe par exemple par le développement des modèles issus du logiciel libre où des individus développent des modèles industriels d'un genre tout à fait nouveau qui ne repose plus sur la prolétarisation, c'est-à-dire la perte de savoir, la perte de savoir-faire des travailleurs manuels, la perte de savoir-vivre des consommateurs, la perte de savoir théorique des concepteurs, ce que vivent tous les gens dans l'industrie aujourd'hui, hein, absolument, y compris au plus haut niveau, je vous y reviendrai tout à l'heure, à très très haut niveau, vous allez voir. Mais au contraire, un processus de déprolétarisation, c'est-à-dire où une nouvelle industrie se développe par le partage des savoirs, par le développement des savoirs. C'est ce qui se passe dans le logiciel libre, et pas simplement dans le logiciel libre, mais dans les wikis et dans toute cette économie qu'on appelle l'économie contributive. J'y reviendrai dans un instant. Ce qui va se passer avec l'automatisation, c'est la remise en cause fondamentale de ça. Ça, c'est Roosevelt, le président Roosevelt, qui assure au peuple américain que par une régulation qu'il impose au capital américain, en tirant les conséquences de la première grande automatisation taylorienne, qui permet de dégager de très grands gains de productivité, donc de très grands bénéfices, il obligera le capital américain à redistribuer ses bénéfices pour que au moins les ouvriers puissent acheter les marchandises produites, ce qui fait qu'il y aura un cercle vertueux. Et ce cercle vertueux, il va être pensé par John Maynard Keynes, dans ce livre-là, notamment, pas seulement dans ce livre-là. Ce modèle-là, qu'on appelle le Fordo-Keynésianisme, et qui a été à la base de la prospérité de l'Occident depuis 1933, jusque pratiquement à la fin du XXe siècle, et qui est issu du taylorisme, c'est-à-dire de la valorisation des gains de productivité par l'automatisation. Et l'automatisation, c'est une bonne chose en soi, hein, si elle permet une redistribution de monnaie et de gains et de temps. Eh bien, ça, c'est la fin. C'est ce dont nous connaissons la fin. Aujourd'hui, il y a aussi des chaînes, mais il n'y a plus personne qui travaille dessus. Ce sont des robots qui sont en train sur ces chaînes. Ce sont des machines totalement automatisées. Chez Mercedes, par exemple, dans les L'usine de motorisation de Munich, il n'y a aucun ouvrier. Il n'y a plus personne. Il y a une dizaine d'ingénieurs qui gèrent l'ensemble des robots avec quelques maintenanciers. Quant à nous, aujourd'hui, nous entrons donc dans une société d'automatisation généralisée qui produit ce qu'une juriste belge appelle la gouvernementalité algorithmique. Et nous sommes à l'époque de ce qu'on appelle les big data et l'économie des données. Dans cette société des big data, de l'automatisation de la prise de décision, la prolétarisation se généralise. La prolétarisation, c'est ce que la prolétarisation des concepteurs, des décideurs à très haut niveau, c'est ce dont parle Alan Greenspan dans ce texte en 2008, très précisément le 23 octobre 2008. Ce que je vous présente là, c'est une séance qui a eu lieu donc au Sénat, à Washington, où un comité de sénateurs a demandé des explications à Alan Greenspan. Comment se fait-il que vous ayez pu laisser s'écrouler tout ce système? Pourquoi avez-vous laissé se développer les subprimes? Pourquoi avez-vous créé une insolvabilité planétaire sans aucune régulation? C'est un républicain qui lui pose cette question, d'ailleurs. Le président de la commission, c'est un sénateur républicain qui l'accuse de ne pas réguler, en 2008. Et la réponse de Greenspan, dont voilà un extrait, en anglais, c'est « Mais d'accord, je suis d'accord avec vous, c'était une grave erreur. Mais c'est ce que disaient tous les prix Nobel d'économie, c'était la théorie néolibérale, qui posait que tout comportement économique et rationnel est donc computationnalisable, donc peut être délégué à un automate, donc vous ne pouvez pas, moi, me mettre en cause. C'est un système qu'il faut mettre en cause. Et ce système, c'est aussi le prix Nobel d'économie. Et il dit, en fait, c'est une absurdité de croire qu'on peut modéliser tout, il y a toujours de l'improbable, il y a toujours de l'incalculable, et il faut de la théorie économique. Mais on a abandonné cette théorie. Alors, Chris Anderson, 4 mois plus tôt, dans un journal californien qui s'appelle Wired, qui est un journal très important parce que c'est la revue des geeks de Californie et du patronat des Big Four, c'est-à-dire des entreprises de l'Internet qui dominent le monde aujourd'hui. Chris Anderson, parlant de Google, disait « Google, c'est extraordinaire, si vous regardez comment ça marche, c'est des big data. Ça vous permet, par exemple, de traduire du chinois en anglais à travers des algorithmes qui ne sont que des mathématiques appliquées. Et chez Google, personne ne parle chinois. On n'a jamais étudié le chinois. Donc, ça prouve qu'avec les modèles de Google, on n'a plus besoin de linguistes. On n'a plus besoin d'étudier les langues. Il faut étudier les mathématiques. » Et il dit d'ailleurs, c'est aussi vrai de l'épidémiologie, puisque Google a prédit beaucoup mieux que l'OMS l'épidémie de grippe, l'a beaucoup mieux géré, donc on n'a plus besoin de médecins et de biologistes. Il faut des bons mathématiciens de la biologie, etc., etc. Discours tout à fait effrayant, qui consiste à dire qu'on n'a plus besoin de théorie. C'est le titre de l'article, c'est « The End of Theory ». À ce discours, il faut poser celui de Frédéric Kaplan, qui a publié donc, au mois de novembre 2011, il y a trois ans, dans le monde diplomatique, cet article très intéressant que vous trouverez facilement en ligne vers le capitalisme linguistique quand les mots valent de l'or, et qui montre que, oui, en effet, Google a la capacité, en utilisant les mathématiques probabilitaires, les chaînes de Markov, comme on les appelle, a la capacité de retrouver, par exemple, des chaînes de caractères très très facilement à la vitesse de la lumière sur les centres serveurs du monde entier, donc de vous apporter la réponse aux questions que vous posez, a la capacité à traduire n'importe quelle langue dans n'importe quelle autre langue. Et en passant, remarquez que ce que dit Kaplan, c'est que toutes les langues du monde coévoluent ensemble à travers Google aujourd'hui. Plusieurs centaines de langues véhiculaires et vernaculaires. Mais ce que montre l'article de Kaplan, c'est que cette transformation du rapport à la langue appauvrit la langue. Inéluctablement, d'abord, produit chez nous de la dysorthographie, c'est-à-dire de la perte de compétences orthographiques progressivement, parce que le système nous corrige automatiquement. Il n'y a pas que Google qui fait ça, bien entendu, hein, tous les systèmes numériques, produit de la désémantisation, c'est-à-dire réduit progressivement les champs sémantiques aux AdWords, c'est-à-dire aux mots sponsorisés par les gens qui sont les clients de Google, etc., etc. Et qu'il y a là un processus qu'on appelle, dans le langage de Schrödinger et de la thermodynamique, un processus d'entropie, c'est-à-dire de destruction de la diversité, de destruction de la variabilité, de destruction de la complexité. C'est un autre aspect de ce que j'appelais tout à l'heure la désintégration. Dans un système comme ça, les locuteurs que nous sommes sont désintégrés. C'est-à-dire que nous ne participons plus à l'évolution de la langue, ce sont les algorithmes qui font évoluer la langue, c'est plus nous. Et ça, c'est extrêmement grave. Car une langue qu'on ne peut plus faire évoluer, c'est une langue à laquelle on ne croit plus, et qu'on ne parle plus, que l'on bavarde, mais qu'on ne parle pas. Il y a un passage de Marcel Proust qui dit « Les fautes de François, c'était sa bonne ». C'était ça, la langue française. Et moi, je ne suis que le témoin de cette évolution de la langue. Et ça, c'est la place donnée à ce que Ferdinand de Saussure appelait la diachronie. Depuis moins de 10 ans, depuis 7 ans, est apparu ce qu'on appelle le social engineering. Le social engineering, c'est l'ingénierie des relations sociales telles qu'elles sont exploitées commercialement et anthropiquement par les réseaux sociaux comme Facebook. Ces processus de canalisation automatique de nos comportements ne concernent plus, comme avec la télévision ou le cinéma dont je parlais tout à l'heure, la captation de l'identification des masses à des grandes stars comme Humphrey Bogart ou Brigitte Bardot ou je ne sais qui. Ça fonctionne par captation de nos données personnelles, comme on dit, fabrication à partir de nos données personnelles de ce qu'on appelle des profils, et à partir de là, personnalisation de nos comportements pour nous amener à nous comporter comme des moutons, mais en passant par des processus de ce type-là, les effets de réseau, la capacité à traiter nos données beaucoup plus vite que nous. Pourquoi beaucoup plus vite que nous? C'est ce que je disais déjà hier soir à Aix-en-Provence. Parce que moi, quand je décide, par exemple, là, j'appuie sur mon truc, entre le moment où je prends la décision d'appuyer et le fait d'appuyer effectivement, il se passe 1/50 de seconde parce que la vitesse de l'information sur mes nerfs, c'est 50 mètres par seconde. Donc, comme ça fait 1 mètre, ça fait 1/50 de seconde. Sur le réseau avec lequel j'interagis, l'information circule à 200 millions de mètres par seconde. Donc, elle va 4 millions de fois plus vite que nous. Et à partir de là, elle peut m'anticiper, avec les systèmes algorithmiques et statistiques dont je vous parlais tout à l'heure, et elle peut précéder à chaque fois mes désirs, et en fait me faire ne plus rien désirer du tout, mais me conformer à ce qui n'est pas du tout mon désir, mais les intérêts du business model que le système de Facebook ou un autre, Amazon ou autre, défend. Alors, la combinaison de l'effet de réseau, qui est un processus très important, l'effet de réseau, il y a un très bon cours à l'Université de Libre de Bruxelles que je vous recommande, il est là, il est en ligne, vous pouvez le regarder. La combinaison de l'effet de réseau avec le traitement algorithmique à la vitesse de la lumière, le user profiling et les profilages utilisateurs dont je vous parlais tout à l'heure, c'est ce qui conduit à une société extrêmement mimétique, extrêmement anthropique, autrement dit, qui se comporte comme des troupeaux de moutons. Et c'est ce qui donne à ce que Freud appelait les foules conventionnelles un sens nouveau. Qu'est-ce que j'appelle les foules conventionnelles ? Les foules conventionnelles, c'est ce dont Freud parle dans un texte très célèbre qui s'appelle « Psychologie des foules et analyse du moi ». Il s'appuie sur un texte de Gustave Le Bon, que beaucoup de mes amis n'aiment pas parce que Gustave Le Bon était un ultra-réactionnaire, mais ça ne m'empêche pas qu'il était intelligent et qu'il disait des choses intéressantes. Donc c'est pas parce que c'est un ultra-réactionnaire qu'il faut le mettre au panier. Ça, c'est ce que faisaient les nazis, mais moi, je suis pas pour ça. Il a écrit un livre qui s'appelle « La psychologie des foules », où il montre que dans certaines circonstances, on se comporte très différemment. C'est-à-dire, au lieu de se comporter individuellement, on ne fait plus que s'identifier à un leader, par exemple, qui peut s'appeler Adolphe ou je sais pas comment, et que, parce que Freud, écrivant ce bouquin, est en train de voir venir le nazisme. Et Freud dit, mais attention, ne confondons pas tout. En même temps, toute société produit des foules conventionnelles. Par exemple, nos sociétés occidentales ont produit l'armée, qui est une foule conventionnelle, et l'église, qui est une autre foule conventionnelle. Et il dit, il pourrait y avoir d'autres formes de foules conventionnelles qui ne sont pas forcément celles que nous préférons, etc., etc. Alors, j'ai pas mal écrit là-dessus dans un livre qui s'appelle « La télécratie contre la démocratie », où j'ai essayé de montrer que Freud n'a pas étudié la radio comme foule conventionnelle, qu'il n'a pas vu la télévision, qui n'a pas existé jusqu'à sa naissance, et qu'évidemment, il ne pouvait pas encore moins connaître Facebook. Mais ce sont de nouveaux types de foules conventionnelles. Et ces nouveaux types de foules conventionnelles produisent des effets de massification des comportements extraordinairement inquiétant. Alors, je ne veux pas parler trop longtemps, parce que j'avais plein de choses, mais je saute. Parce que, je pense qu'il faut qu'on discute, et puis on est plusieurs ici à cette table à intervenir, et par Skype également. Ce que je voudrais dire, c'est que aujourd'hui, nous vivons, à travers les réseaux numériques qui construisent des foules conventionnelles, des processus d'automatisation de nos comportements. Par exemple, nous avons des comportements automatiques de consommateurs qui se développent via cette économie de data, qui sont actualisés en temps réel, qui passent des ordres de commande de production à des ateliers automatisés eux-mêmes qui se trouvent en Corée ou je ne sais pas où. Je dis en Corée, je ne sais pas où, parce que maintenant c'est l'Asie qui automatise. Foxconn a lancé l'automatisation de ses ateliers. 10 000 robots ont été recrutés, entre guillemets, par Foxconn. Foxconn, c'est ceux qui fabriquent ces machines-là. C'est le fabricant chinois de Apple. Donc la Chine est en train d'automatiser. C'est très important de voir que ça va avoir des conséquences extrêmes. Et ce processus-là, qui se produit en temps réel, produit une société automatique. Cette société automatique, elle rend possible deux scénarios opposés. Un scénario qui, à mon avis, n'est absolument pas solvable, n'est pas durable, n'est pas soutenable et qui conduira forcément à des conflits sociaux qui termineront nécessairement dans la violence, dans l'extrême violence. C'est le scénario que, par exemple, Bill Gates voudrait imposer, consiste à dire, puisque maintenant il y a les robots qui sont en concurrence avec les salariés, il faut encore diminuer les salaires, il faut supprimer la taxe sur les salaires pour les entreprises, il faut supprimer les impôts, enfin, et ce qui est une absurdité, parce que c'est créer une insolvabilité structurelle, bien entendu. Si les robots produisent énormément, mais qu'il n'y a plus de pouvoir d'achat pour acheter, le système ne peut pas fonctionner. Donc il y a une logique absurde du capitalisme, qui est une logique spéculative, qui consiste à dire, tant qu'il y a de l'argent à faire, prenons-le, après nous le déluge. Ça, c'est pas raisonnable. Il y a une autre logique qui consiste à dire que les robots, en économisant du temps, vont permettre une redistribution du temps gagné. Et cette redistribution du temps gagné, elle doit être mise au service d'une production de négentropie, c'est-à-dire elle doit être mise au service de la lutte contre l'entropie. Tiens, j'avais oublié de montrer ça. Qu'est-ce que c'est que la lutte contre l'entropie ? C'est la lutte pour la sortie de l'anthropocène. L'anthropocène, c'est ce que depuis 2000, c'est-à-dire depuis 14 ans, un chimiste américain a développé comme concept pour dire, mais on sait très bien maintenant que depuis 200 ans au moins, l'homme est devenu une force tellurique, c'est-à-dire que c'est une force qui modifie les grands équilibres de la planète. Donc c'est une force quasiment naturelle, ou disons, il faut dépasser l'opposition entre la nature et la culture. Et cette force, elle pose un énorme problème. Elle est anthropique. Anthropique en deux sens. Anthropique avec A-N-T-H, comme ici, dans Anthropocène, mais aussi anthropique avec E-N-T-R-O-P, c'est-à-dire au sens de la thermodynamique. Elle produit du désordre, elle produit de la destruction, elle produit de la désorganisation. Par exemple, destruction du climat, destruction des grands équilibres, etc. etc. Par exemple, le déplacement du Gulf Stream dans l'océan Atlantique, c'est un phénomène de production de désordre, typiquement. Nous savons très bien que nous avons 50 ans pour sortir de l'Anthropocène. Et quand je dis que nous avons 50 ans pour en sortir, ça ne veut pas dire que nous avons 50 ans pour nous décider comment on va en sortir. C'est maintenant qu'il faut décider comment on va en sortir. La seule manière de sortir de l'Anthropocène, c'est d'entrer dans le néganthropocène. Ça veut dire que c'est faire que l'activité des gens, libérée par l'automatisation, doit devenir productrice massivement de néganthropie. La néganthropie, qui devrait être donc la production d'une nouvelle époque de l'économie humaine, basée sur l'automatisation, le néganthropocène, se développera si nous savons réinventer le web. Je vous présente ici la première page web qui a jamais été produite par le CERN. C'est Tim Berners-Lee qui l'a produite sur une station Next, qui était une station, une machine sur laquelle il travaillait à l'époque, sur laquelle j'aimerais même travailler. Il faut réinventer le web. Le web est une formidable machine à produire de la néganthropie. Si vous allez sur Wikipédia, c'est une machine néganthropique qui produit énormément de néganthropie. Mais le problème, c'est que le web qui existe depuis 21 ans et qui est, je ne vais pas dire régulé parce que ce n'est pas un processus de régulation, mais dont les recommandations de standards se définissent à l'intérieur d'une institution qui s'appelle le W3C, le World Wide Web Consortium, qui est sous la pression des lobbies américains, où Google, Facebook, Amazon, évidemment, sont extrêmement représentés, ont mis des dizaines d'ingénieurs, des dizaines d'avocats qui sont présents à Londres et qui font passer leurs intérêts. Le web tel qu'on le connaît aujourd'hui n'est plus du tout celui qu'il était lorsque Tim Berners-Lee a conçu. Tim Berners-Lee avait conçu le web pour développer des controverses sur le web, c'est-à-dire pour produire la différenciation, une augmentation néganthropique de l'intelligence. Et petit à petit, le business du web a tout soumis aux algorithmes, c'est-à-dire à la calculabilité. La calculabilité pure est anthropique, elle n'est pas néganthropique. Et donc, on est arrivé à un processus qui s'est extrêmement aggravé avec les réseaux sociaux. Ça, c'est le principe de fonctionnement des réseaux sociaux. Ça n'a pas été inventé par Mark Zuckerberg. Ça a été conçu par Moreno dans les années 40 aux États-Unis. Les graphes de Moreno, qui sont extrêmement connus, dont Zuckerberg a repris les concepts pour développer son réseau social. Mais ça, c'est un réseau qui n'est pas du tout social. C'est en fait un réseau d'interaction entre individus où il n'y a pas d'individuation collective. Et j'ai développé moi-même avec à l'Institut de Recherche et d'Innovation, avec Harry Alpine qui travaille chez nous à l'IRI et au W3C, et un chercheur chinois qui s'appelle Yu Qiyi, qui est un grand mathématicien, nous avons développé un autre modèle de réseaux sociaux qui repose sur une individuation à trois niveaux, avec des relations interindividuelles, mais aussi une individuation collective qui permet par exemple aux membres du réseau de modifier les règles de fonctionnement du réseau. Et c'est la base de ce que nous croyons être un réseau néganthropique. Aujourd'hui, il faut réinventer l'intelligence collective. Vous savez qu'aujourd'hui, ce que représente ce site, c'est la puissance de ce qu'on appelle le crowd sourcing, les foules intelligentes, le travail gratuit. Mais ce travail gratuit, il est aujourd'hui mis au service d'une manière souvent extrêmement spoliante, d'ailleurs, du développement des business models de ces grandes institutions, ces grandes entreprises américaines dont je parlais tout à l'heure. Nous pensons qu'il faut réinventer tout cela pour produire, par exemple avec ce type de plateforme, qui est une plateforme qui est mise en œuvre par l'IRI aujourd'hui, des processus d'interprétation des grands tropiques sur le web qui produisent de la diversité d'interprétation, tout cela dans le but d'inventer ce qui est non seulement le néganthropocène, mais ce qu'on pourrait appeler une néganthropie ou une néganthropologie, qui est une réinvention du mode de vie humain qui soit capable de reproduire de l'identification, de l'individuation collective, etc., etc.
C'était une conférence de Bernard Tigler, La désintégration, conférence donnée au Théâtre du Merlan le 17 décembre dernier sur une invitation de Planète Émergence à l'occasion du festival Marseille Retrouve le Nord et en association avec Ars Industrialis. Les conférences, un programme à retrouver sur les ondes de Radio Grenouille tous les samedis à 10h.